Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On va tout de suite passer au grand titre de notre journal, la Nouvelle-Galles du Sud, qui enregistre un nouveau cas, un nouveau nombre très élevé de cas du Covid-19. Le trésorier Josh Frydenberg présente en ce moment même sa mise à jour économique des perspectives financières pour la mi-année en Australie. Et une nouvelle recherche montre que la criminalité globale diminue à travers le pays. On va parler donc de la Nouvelle-Galles du Sud qui a enregistré 1742 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'est sur la base de 143 000 tests. Il s'agit du nombre de cas quotidiens le plus élevé enregistré dans l'État, dépassant le précédent pic de 1603 cas. C'était le 11 septembre. Au total, 192 personnes sont hospitalisées avec le virus, dont 26 en soins intensifs. Cela survient alors que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud est critiqué pour ces messages publics qui sont mitigés. Hier, mercredi, le premier Dominique Perrottet a réitéré son appel pour que l'accent soit mis sur les personnes dans les hôpitaux et sur les soins intensifs. Et quelques minutes plus tard, le ministre de la Santé, Brad Hazard, a averti que l'État pourrait enregistrer jusqu'à 25 000 infections par jour le mois prochain. S'adressant à Nine Network, l'ancien président de la Medical Association, le docteur Tony Barton, demande aux résidents de se concentrer sur le port du masque à l'avenir. On l'écoute.
One of the simplest things we can do is keep wearing these. I mean, they're relatively cheap and very effective at reducing the spread of infection. Wearing a mask and remembering those all those other messages that we've had drilled into us right through.
Voilà donc Tony Barton de l'Australian Medical Association. Le Victoria a également enregistré un nombre élevé de cas aujourd'hui, 1622 nouveaux cas de Covid-19. C'est le taux et le nombre le plus élevé depuis le 29 octobre. Il y a également 9 autres décès. C'est surtout un total combiné de 3364 cas exactement en Australie. C'est le décompte quotidien le plus élevé dans le pays, dans toute l'histoire du Covid donc pour l'Australie. En Chine, un rapport de l'agence médicale nationale tente de prouver que la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 est primordiale pour lutter contre le variant Omicron. On écoute Stéphane Lagarde.
Trois doses, ça peut passer. Deux doses, bonjour les dégâts. Dans sa réponse à l'étude des chercheurs de l'université de Hong Kong, Sinovac affirme que 94% des personnes ayant pris une dose de rappel du vaccin CoronaVac ont présenté des niveaux détectables d'anticorps capables de neutraliser Omicron. Le laboratoire ne fournit pas de détails sur les niveaux mesurés, mais reconnaît qu'avec deux doses, 7 personnes seulement sur 20 ont pu produire des anticorps face à la nouvelle souche mutante du coronavirus. Dans tous les cas, cette relative baisse d'efficacité est une mauvaise nouvelle pour la Chine qui jusqu'ici a su contenir la COVID-19 au prix de frontières fermées associées à des mesures de détection, de traçage des cas contacts et de confinement stricts. Or, si la plupart des mégalopoles chinoises en sont à la troisième dose, des trous existent sur la carte. Dans certaines provinces, le taux de vaccination des plus de 80 ans est de 30%, 50% pour les plus de 70 ans, affirmait récemment le directeur du Centre de développement scientifique de la Commission nationale de la santé. En attendant les traitements et les nouveaux vaccins, la grande muraille sanitaire chinoise est donc à l'épreuve, avec une inquiétude, celle de voir Omicron passer entre les mailles de la stratégie zéro Covid.
Et c'était Stéphane Lagarde pour RFI à Pékin. Des experts médicaux ont demandé que les injections de rappel du Covid-19 soient encore plus avancées à la suite de l'augmentation des cas donc, du variant Omicron, alors que les régulateurs médicaux ont déjà réduit le temps d'attente pour les personnes âgées de 18 ans et plus pour recevoir donc, cette troisième dose. Il est passé de 6 mois à 5 mois. Certains ont recommandé qu'il soit à nouveau réduit. L'Australian Doctors Reform Society affirme que des millions d'Australiens pourrait attraper Omicron inutilement et que certains mourront si Scott Morrison n'avance pas immédiatement le vaccin et son booster à 3 mois après la seconde dose. On écoute le président de l'Association médicale australienne, Omar Khorshid.
The timing of the booster dose is a complex decision because actually the longer the period of time between the doses, the better long-term immunity you get. But on the flip side, we're seeing over 1,000 cases today in New South Wales, and that indicates this booster program does need to be brought forward even further.
Voilà donc pour le Covid. 13h06. Virgin Australia a repris ses vols internationaux aujourd'hui avec le service inaugural qui partit de Sydney pour les îles de Fidji. Les revenus de Virgin Australia sont passés de 4,5 milliards de dollars en 2019-2020 à seulement 1,5 milliard de dollars l'année dernière pendant cette pandémie qui a immobilisé la majeure partie de sa flotte. La PDG donc de Virgin Australia, Jane Ricca, a organisé une fête avant le départ pour les passagers avec une performance de Paolini, candidat fidjien australien pour l'Eurovision 2022 qui sera d'ailleurs sur SBS. Elle a également coupé un ruban de cérémonie pour marquer la reprise des vols internationaux de la compagnie aérienne.
Well, it's very exciting today. It's a big milestone. And for me personally, walking into the international terminal, I was feeling what our guests are feeling, which is a lot of emotion. It's so nice to be able to fly internationally again. And today is a huge day for a lot of people who are going to visit family, friends, or go have a phenomenal holiday that they've been hungry for and now they can take. So we'll be flying to Bali and New Zealand soon.
Voilà donc pour Virgin Australia. Alors, d'après Josh Frydenberg, le ministre du Trésor, 1 million d'emplois seront créés au cours des 4 prochaines années grâce à la stratégie économique du gouvernement Morrison. C'est une augmentation de 150 000 emplois par rapport à une estimation précédente. Le trésorier fédéral doit présenter une mise à jour du budget à la mi-exercice. Il est en train de le faire d'ailleurs. S'adressant donc au programme Sunrise ce matin sur Channel 7, Josh Frydenberg a déclaré que l'économie australienne rebondissait et que le taux de chômage devrait chuter à 4,5% l'année prochaine. On écoute Josh Frydenberg.
Well, we're seeing jobs created right across the economy. 1 million jobs now in manufacturing, whereas under Labor we saw 1 in 8 manufacturing jobs being lost. We've seen jobs come back in the hospitality sector. In fact, there are workforce shortages right now, and we're creating new industries in defence, in space, in critical minerals. It does just reflect the momentum we have in our economic recovery.
Voilà donc Josh Frydenberg. Le président américain Joe Biden a nommé la fille de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy comme prochaine ambassadrice du pays en Australie. La Maison-Blanche a classé donc Caroline Kennedy parmi les 8 nominations recommandées pour des postes diplomatiques. Caroline Kennedy a déjà été ambassadrice des États-Unis au Japon, c'était entre 2013 et 2017, et a reçu la plus haute distinction du pays pour les étrangers, donc le grand cordon du soleil levant. C'était en novembre 2021. Elle se dit reconnaissante pour le rôle que les gardes-côtes australiens et gardes-côtes des îles Salomon ont joué dans le sauvetage de son père, donc JFK, John Fitzgerald Kennedy, il était sur un torpilleur qui a été coulé dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle accepte donc le rôle pour rembourser cette dette. On l'écoute.
I look forward to collaborating with the Government of Australia to strengthen our alliance, improve global health and increase vaccine access during this terrible pandemic and to address the urgent climate crisis. I'm excited to get to know the Australian people, learn about their fascinating country and share with them what I love most about America.
Voilà, donc c'était une déclaration de la nouvelle ambassadrice américaine en Australie. HESTA a lancé un nouvel outil d'éducation en ligne pour offrir aux Australiens du conseil financier à des prix plus abordables. Future Planner a été créé après que les membres de HESTA aient demandé de l'aide pour simplement soulager l'anxiété entourant la prise de la retraite et la retraite et la planification de la retraite. L'outil en ligne offre une photo instantanée personnalisée de la situation future en intégrant d'autres revenus potentiels comme la pension de vieillesse ainsi que intégrant la planification en mode avec le mode de vie. Le directeur du conseil, Josh Parisotto, déclare que cet outil a été conçu pour permettre aux personnes des communautés parlant une autre langue que l'anglais tout à fait d'améliorer leurs connaissances financières. On l'écoute.
We've got a national translator service through our contact center and we have available 25 different languages where we change some of the literature we've got to those language groups to make it more navigable for them all the way through so they have some confidence behind what we're doing.
13h11, direction le Royaume-Uni. Maintenant, les prix flambent là-bas. L'inflation cette année a atteint des records et le ministre des Finances promet même d'injecter près de 4 milliards de livres dans l'économie. Les détails du problème avec Jean-Alain Drivon, il est économiste.
Plusieurs raisons l'expliquent. Ces raisons sont d'ailleurs en grande partie communes avec la zone euro, puisque l'inflation en zone euro a atteint 4,9% sur un an en novembre aussi. Alors tout d'abord, évidemment, il y a des phénomènes liés à l'énergie, puisqu'un des premiers contributeurs à cette hausse, c'est le prix du carburant, et d'autres phénomènes liés aux tensions sur les approvisionnements. Avec la crise, les chaînes logistiques mondiales ont été assez désorganisées, et ça provoque des pénuries de certains intrants ou matières premières, comme les semi-conducteurs, et avec des hausses très fortes des prix de ces matières premières, qui se reflètent aussi dans les prix à la production. Un autre phénomène qui est aussi commun avec la zone euro, c'est des tensions sur le marché du travail. Le taux de chômage est resté à un niveau très bas au Royaume-Uni, il est à 4,2 aujourd'hui, et les pénuries de main-d'œuvre alimentent aussi les hausses de salaire qui, du coup, enclenchent un phénomène de tension sur les prix de vente des entreprises.
Et voilà, c'était Jean-Alain Drivon, économiste sur la question de l'inflation au Royaume-Uni. L'ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a plaidé coupable pour une accusation fédérale de violation des droits civils sur la mort de George Floyd. Chauvin a été reconnu donc coupable du meurtre par l'État et coupable d'homicide involontaire et coupable pour avoir poussé son genou sur le cou de George Floyd lors de son arrestation en mai 2020. Il a été condamné à 22 ans et demi de prison pour cette affaire. L'accusation fédérale a donc demandé et a dit que Chauvin avait privé Floyd et bien de ses droits fondamentaux en s'agenouillant sur son cou alors qu'il était menotté et ne résistait pas. Le frère de George Floyd, Rodney, et leur avocat, donc de la famille de George Floyd, Jeff Storms, se sont adressés aux médias après la comparution de Chauvin en personne.
We just wanted accountability because we can never have justice because we can never get George back.
He pleaded guilty today after putting this family through a gut-wrenching trial where the jury very quickly realized that he was guilty of all charges in one of the most catastrophic and egregious civil rights violations that anyone has ever seen.
Voilà donc pour les États-Unis. 13h05, direction le Canada. Maintenant, le gouvernement a annoncé une offre de 40 milliards de dollars pour les enfants autochtones, avec la moitié qui sera consacrée à l'indemnisation des familles dont les enfants ont été tout simplement arrachés à leur culture faute de services locaux de protection de la jeunesse. Les explications avec Pascal Guéricola.
Dès 2006, des familles dont les enfants ont dû aller vivre dans un milieu totalement différent de leur culture autochtone ont porté plainte contre le gouvernement canadien. L'avocat Armand Mackenzie, lui-même Innu, une des communautés des Premières Nations, les a soutenus dans ce combat.
Ce qui arrive encore, c'est que les enfants sont amenés loin de leur village, loin de leur culture, loin de leur langue. On ne les revoit plus, ces enfants-là. Ils reviennent à l'âge adulte, ils recherchent leur identité, ils veulent connaître leur famille, leur parenté et tout ça.
Plusieurs décisions judiciaires ont donné raison aux Autochtones de contester des placements des enfants hors de leur milieu d'origine. Le gouvernement canadien a finalement accepté de débloquer des sommes pouvant aller jusqu'à une trentaine de milliards d'euros pour compenser les familles et favoriser des services locaux. Le ministre Mark Miller, des Relations avec les Autochtones.
Concrètement, cet investissement va permettre de mettre fin à la discrimination pour s'assurer de ne pas reproduire le modèle d'intervention qui a arraché les enfants à leur famille. Tout cela a un coût financier, mais nous devons aussi réfléchir au prix que représente l'inaction.
Les négociations se poursuivent jusqu'au 31 décembre entre le gouvernement et plusieurs instances autochtones.
Et c'était Pascal Guéricola pour RFI. 13h15, on va faire un retour sur, on va faire un coup d'œil météo d'abord en Australie. À Perth, il fera 24 degrés cet après-midi. Adélaïde, il fait 30. Melbourne, 20. Hobart, 20. Canberra, 27. Sydney, 24. Brisbane, 31. Cairns, 34 degrés. Et Darwin, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La Nouvelle-Galles du Sud qui a enregistré bien un nombre quotidien élevé, le plus élevé d'ailleurs de l'histoire du Covid en Australie. Et c'est le même cas pour tout le pays, en fait, pour l'Australie, entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria. Le trésorier Josh Frydenberg, qui est en train de présenter sa mise à jour économique avec des perspectives financières de mi-année. Il pense que le chômage l'année prochaine tombera à 4,5%.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez-nous. rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.